Une heure après, Lucien fut délivré par Bérénice, la compagne d'enfance de Coralie, une créature aussi fine, aussi déliée d'esprit qu'elle était corpulente. Restez ici. Coralie reviendra seule. Elle veut même congédier Camuso s'il vous ennuie, dit Bérénice à Lucien. Mais, cher enfant de son cœur, vous êtes trop ange pour la ruiner. Elle me l'a dit. Elle est décidée à tout planter là, à sortir de ce paradis pour aller vivre dans votre mansarde. Oh, les jaloux, les envieux, ne lui ont-ils pas expliqué que vous n'aviez ni sou ni maille, que vous viviez au quartier latin? Je vous suivrai, voyez-vous, je vous ferai votre ménage. Mais je viens de consoler la pauvre enfant. Pas vrai, monsieur, que vous avez trop d'esprit pour donner dans de pareilles bêtises? Ah, vous verrez bien que l'autre gros n'a rien que le cadavre et que vous êtes le chéri, le bien-aimé et la divinité à laquelle on abandonne l'âme. Si vous saviez comme ma Coralie est gentille quand je lui fais répéter ses rôles. Un amour d'enfant, quoi. Elle méritait bien que Dieu lui envoyât un de ses anges. Elle avait le dégoût de la vie. Elle a été si malheureuse avec sa mère qui l'a battée, qui l'a vendue. Oui, monsieur, une mère, sa propre enfant. Si j'avais une fille, je la servirais comme ma petite Coralie de qui je me suis fait un enfant. Voilà le premier bon temps que je lui ai vu, la première fois qu'elle a été bien applaudie. Il paraît que, vu ce que vous avez écrit, on a monté une fameuse claque pour la seconde représentation. Pendant que vous dormiez, Brolard est venu travailler avec elle. Qui, Brolard ? Demanda Lucien, qui crut avoir entendu déjà ce nom. Le chef des claqueurs, qui de concert avec elle est convenu des endroits du rôle où elle serait soignée. Quoi qu'elle se dise son amie, Florine pourrait vouloir lui jouer un mauvais tour et prendre tout pour elle. Tout le boulevard est en rumeur à cause de votre article. Quel lit arrangé pour les amours d'une fée et d'un prince, dit-elle en menant sur le lit un couvre-pied en dentelle. Elle alluma les bougies. Aux lumières, Lucien, étourdi, se crut en effet dans un conte du cabinet des fées. Les plus riches étoffes du Cocon d'Or avaient été choisies par Camuso pour servir aux tentures et aux draperies des fenêtres. Le poète marchait sur un tapis royal. Les meubles en palissandre sculpté arrêtaient dans les tailles du bois des frissons de lumière qui y papillotaient. La cheminée en marbre blanc resplendissait des plus coûteuses bagatelles. La descente du lit était en cygne, bordée de martre. Des pantoufles en velours noir, doublées de soie pourpre, y parlaient des plaisirs qui attendaient le poète des marguerites. Une délicieuse lampe pendait du plafond tendu de soie. Partout, des jardinières merveilleuses montaient des fleurs choisies, de jolies bruyères blanches, des camélias sans parfum. Partout vivaient les images de l'innocence. Il était impossible d'imaginer là une actrice et les mœurs du théâtre. Bérénice remarqua l'ébahissement de Lucien. « Est-ce gentil ? » lui dit-elle d'une voix câline. « Ne serez-vous pas mieux là pour aimer que dans un grenier ? Empêcher son coup de tête ? » reprit-elle en amenant devant Lucien un magnifique guéridon chargé de mets dérobés au dîner de sa maîtresse, afin que la cuisinière ne pût soupçonner la présence d'un amant. Lucien dîna très bien, servi par Bérénice dans une argenterie sculptée, dans des assiettes peintes à un louis la pièce. Ce luxe agissait sur son âme comme une fille des rues agit avec ses chairs nus et ses bas blancs bien tirés sur un lycéen. « Est-il heureux, ce Camuso ? » s'écria-t-il. « Heureux ? » reprit Bérénice. « Ah, il donnerait bien sa fortune pour être à votre place et pour tronquer ses vieux cheveux gris contre votre jeune chevelure blonde. » Elle engagea Lucien, à qui elle donna le plus délicieux vin que Bordeaux ait soigné pour le plus riche anglais, à se recoucher en attendant Coralie, à faire un petit somme provisoire. Et Lucien avait en effet envie de se coucher dans ce lit qu'il admirait. Bérénice, qui avait lu ce désir dans les yeux du poète, en était heureuse pour sa maîtresse. À 10h30, Lucien s'éveilla sous un regard trempé d'amour. Coralie était là, dans la plus voluptueuse toilette de nuit. Lucien avait dormi. Lucien n'était plus ivre que d'amour. Bérénice se retira demandant « À quelle heure demain ?» 11 heures, tu nous apporteras notre déjeuner au lit. Je n'y serai pour personne avant 2 heures. » À 2 heures le lendemain, l'actrice et son amant étaient habillés et en présence, comme si le poète fût venu faire une visite à sa protégée. Coralie avait baigné, peigné, coiffé, habillé Lucien. Elle lui avait envoyé chercher 12 belles chemises, 12 cravates, 12 mouchoirs chez Colliot, une douzaine de gants dans une boîte de cèdre. Quand elle entendit le bruit d'une voiture à sa porte, elle se précipita vers la fenêtre avec Lucien. Tous deux virent Camuso descendant d'un coupé magnifique. « Je ne croyais pas, dit-elle, qu'on pût haïr tant un homme et le luxe. Je suis trop pauvre pour consentir à ce que vous vous ruiniez, dit Lucien en passant ainsi sous les fourches codines. « Pauvre petit chat, dit-elle en pressant Lucien sur son cœur, tu m'aimes donc bien ?»« J'ai engagé monsieur, dit-elle en montrant Lucien à Camusot, à venir me voir ce matin en pensant que nous allions nous promener aux Champs-Élysées pour essayer la voiture. « Allez-y seul, dit tristement Camusot. Je ne dîne pas avec vous, c'est la fête de ma femme, je l'avais oubliée. « Pauvre Musot, comme tu t'ennuieras, dit-elle en sautant au cou du marchand. Elle était ivre de bonheur, en pensant qu'elle traînerait seule avec Lucien ce beau coupé, qu'elle irait seule avec lui au bois, et, dans son accès de joie, elle eut l'air d'aimer Camusot à qui elle fit 1000 caresses. « Je voudrais pouvoir vous donner une voiture tous les jours, dit le pauvre homme. « Allons, monsieur, il est 2 heures, dit l'actrice à Lucien qu'elle vit honteux et qu'elle consola par un geste adorable. » Coralie dégringola les escaliers en entraînant Lucien, qui entendit le négociant se traînant comme un phoque après eux sans pouvoir les rejoindre. Le poète éprouva la plus enivrante des jouissances. Coralie, que le bonheur rendait sublime, offrit à tous les yeux ravis une toilette pleine de goût et d'élégance. Le Paris des Champs-Élysées admira ces deux amants. Dans une allée du bois de Boulogne, leur coupé rencontra la calèche de Madame d'Espard et de Bargeton, qui regardèrent Lucien d'un air étonné, mais auquel il lança le coup d'œil méprisant du poète qui pressent sa gloire et va user de son pouvoir. Le moment où il put échanger par un coup d'œil avec ces deux femmes quelques-unes des pensées de vengeance qu'elle lui avait mises au cœur pour le ronger, fut un des plus doux de sa vie et décida peut-être de sa destinée. Lucien fut repris par les furies de l'orgueil. Il voulut reparaître dans le monde, y prendre une éclatante revanche, et toutes les petitesses sociales, naguère foulées aux pieds du travailleur, de l'ami du cénacle, rentrèrent dans son âme. Il comprit alors toute la portée de l'attaque faite pour lui par Lousteau. Lousteau venait de servir ses passions. Tandis que le cénacle, ce mentor collectif, avait l'air de les mater au profit des vertus ennuyeuses et de travaux que Lucien commençait à trouver inutiles. Travailler, n'est-ce pas la mort pour les âmes avides de jouissance? Aussi, avec quelle facilité les écrivains ne glissent-ils pas dans le far niente, dans la bonne chair et les délices de la vie luxueuse des actrices et des femmes faciles? Lucien sentit une irrésistible envie de continuer la vie de ces deux folles journées. Le dîner au rocher de Cancale fut exquis. Lucien trouva les convives de Florine, moins le ministre, moins le duc et la danseuse, moins Camusot, remplacés par 2 acteurs célèbres et par Hector Merlin, accompagné de sa maîtresse. Une délicieuse femme qu'il se faisait appeler Madame du Val-Noble, la plus belle et la plus élégante des femmes qui composaient alors à Paris le monde exceptionnel de ces femmes, qu'aujourd'hui l'on a décemment nommée des Lorettes. Lucien, qui vivait depuis 48 heures dans un paradis, apprit le succès de son article. En se voyant fêté, envié, le poète trouva son aplomb. Son esprit scintilla. Il fut le Lucien de Rubempré qui pendant plusieurs mois brilla dans la littérature et dans le monde artiste. Finot, cet homme d'une incontestable adresse à deviner le talent, dont il devait faire une grande consommation et qui le flairait comme un ogre sans la chair fraîche, cajola Lucien en essayant de l'embaucher dans l'escouade de journalistes qu'il commandait, et Lucien mordit à ses flatteries. Coralie observa le manège de ce consommateur d'esprit et voulut mettre Lucien en garde contre lui. « Ne t'engage pas, mon petit, » dit-elle à son poète. « Attends, ils veulent t'exploiter. Nous causerons de cela ce soir. »« Bah, » lui répondit Lucien, « je me sens assez fort pour être aussi méchant et aussi fin qu'ils peuvent l'être. » Finot, qui ne s'était sans doute pas brouillé pour les blancs avec Hector Merlin, présenta Merlin à Lucien et Lucien à Merlin. Coralie et Madame du Val-Noble fraternisèrent, se comblèrent de caresses et de prévenances. Madame du Val-Noble invita Lucien et Coralie à dîner. Hector Merlin, le plus dangereux de tous les journalistes présents à ce dîner, était un petit homme sec, à lèvres pincées, couvrant une ambition démesurée d'une jalousie sans bornes, heureux de tous les maux qui se faisaient autour de lui, profitant des divisions qu'il fomentait, ayant beaucoup d'esprit, peu de vouloir, mais remplaçant la volonté par l'instinct qui mène les parvenus vers les endroits éclairés par l'or et par le pouvoir. Lucien et lui se déplurent mutuellement. Il n'est pas difficile d'expliquer pourquoi Merlin eut le malheur de parler à Lucien à haute voix comme Lucien pensait tout bas. Au dessert, les liens de la plus touchante amitié semblaient unir les hommes qui tous se croyaient supérieurs l'un à l'autre. Lucien, le nouveau venu, était l'objet de leur coquetterie. On causait à cœur ouvert. Hector Merlin seul ne riait pas. Lucien lui demanda la raison de sa raison. « Mais je vous vois entrant dans le monde littéraire et journaliste avec des illusions. Vous croyez aux amis? Nous sommes tous amis ou ennemis selon les circonstances. Nous vous frappons les premiers avec l'arme qui devrait ne nous servir qu'à frapper les autres. Vous vous apercevrez avant peu que vous n'obtiendrez rien par les beaux sentiments. Si vous êtes bon, faites-vous méchant. Soyez hargneux par calcul. Si personne ne vous a dit cette loi suprême, je vous la confie et je ne vous aurais pas fait une médiocre confidence. Pour être aimé, ne quittez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait pleurer un peu. Pour faire fortune en littérature, blessez toujours tout le monde, même vos amis, faites pleurer les amours propres. Tout le monde vous caressera. Hector Merlin fut heureux en voyant à l'air de Lucien que sa parole entrait chez le néophyte comme la lame d'un poignard dans un cœur. On joua. Lucien perdit tout son argent. Il fut emmené par Coralie, et les délices de l'amour lui firent oublier les terribles émotions du jeu qui, plus tard, devait trouver en lui l'une de ses victimes. Le lendemain, en sortant de chez elle et revenant au quartier latin, il trouva dans sa bourse l'argent qu'il avait perdu. Cette attention l'attrista d'abord. Il voulut revenir chez l'actrice et lui rendre un don qui l'humiliait. Mais il était déjà rue de l'Harpe. Il continua son chemin vers l'hôtel Cluny. Tout en marchant, il s'occupa de ce soin de Coralie. Il y vit une preuve de cet amour maternel que ces sortes de femmes mêlent à leur passion. Chez elles, la passion comporte tous les sentiments. De pensée en pensée, Lucien finit par trouver une raison d'accepter en se disant « Je l'aime, nous vivrons ensemble comme mari et femme, et je ne la quitterai jamais. » À moins d'être Diogène, qui ne comprendrait alors les sensations de Lucien en montant l'escalier boueux et puant de son hôtel, en faisant grincer la serrure de sa porte, en revoyant le carreau sale et la piteuse cheminée de sa chambre horrible de misère et de nudité. Il trouva sur sa table le manuscrit de son roman et ses mots de Daniel d'Arthez. « Nos amis sont presque contents de votre œuvre, cher poète. Vous pourrez la présenter avec plus de confiance, dit-il, à vos amis et à vos ennemis. Nous avons lu votre charmant article sur le panorama dramatique, et vous devez exciter autant d'envie de la littérature que de regrets chez nous, Daniel. » « Regret ? Que veut-il dire ? » s'écria Lucien, surpris du temps de politesse qui régnait dans ce billet. « Était-il donc un étranger pour le Cénacle ? Après avoir dévoré les fruits délicieux que lui avait tendus l'Ève des coulisses, il tenait encore plus à l'estime et à l'amitié de ses amis de la rue des Quatre Vents. Il resta pendant quelques instants plongé dans une méditation par laquelle il embrassait son présent dans cette chambre et son avenir dans celle de Coralie. En proie à des hésitations alternativement honorables et dépravantes, il s'assit et se mit à examiner l'état dans lequel ses amis lui rendaient son œuvre. Quel étonnement fut le sien! De chapitre en chapitre, la plus habile et dévouée de ces grands hommes encore inconnus avait changé ses pauvretés en richesses. Un dialogue plein, serré, concis, nerveux remplaçait ses conversations, qu'il comprit alors n'être que des bavardages en les comparant à des discours où respirait l'esprit du temps. Ses portraits, un peu mous de dessin, avaient été vigoureusement accusés et colorés. Tous se rattachaient au phénomène curieux de la vie humaine par les observations physiologiques, dues sans doute à Bianchon, exprimées avec finesse et qui les faisaient vivre. Ses descriptions verbeuses étaient devenues substantielles et vives. Il avait donné une enfant mal faite et mal vêtue, et il retrouvait une délicieuse fille en robe blanche, à ceinture, à écharpe rose, une créature ravissante. La nuit le surprit, les yeux en pleurs, atterré de cette grandeur, sentant le prix d'une pareille leçon, admirant ses corrections, qu'il y en apprenait plus sur la littérature et sur l'art que ses 4 années de travaux, de lecture, de comparaison et d'études. Le redressement d'un carton mal conçu, un trait magistral sur le vif, en disent toujours plus que les théories et les observations. « Quels amis, quel cœur, suis-je heureux ! » s'écria-t-il en serrant le manuscrit. Entraîné par l'emportement naturel aux natures poétiques et mobiles, il courut chez Daniel. En montant l'escalier, il se crut cependant moins digne de ses cœurs que rien ne pouvait faire dévier du sentier de l'honneur. Une voix lui disait que si Daniel avait aimé Coralie, il ne l'aurait pas accepté avec Camusot. Il connaissait aussi la profonde horreur du Cénacle pour les journalistes, et il se savait déjà quelque peu journaliste. Il trouva ses amis, Moiméro, qui venait de sortir, en proie à un désespoir peint sur toutes les figures. « Qu'avez-vous, mes amis ?» dit Lucien. « Nous venons d'apprendre une horrible catastrophe, le plus grand esprit de notre époque, notre ami le plus aimé, celui qui pendant 2 ans a été notre lumière. » « Louis Lambert ?» dit Lucien. « Il est dans un état de catalepsie qui ne laisse aucun espoir, » dit Bianchon. « Il mourra le corps insensible et la tête dans les cieux, » ajouta solennellement Michel Chrétien. « Il mourra comme il a vécu, » dit d'Arthez. « L'amour jeté comme un feu dans le vaste empire de son cerveau l'a incendié, » dit Léon Giraud. « Ou, » dit Joseph Bridau, « l'a exalté à un point où nous le perdons de vue. »« C'est nous qui sommes à plaindre, » dit Fulgence Ridal. « Il se guérira peut-être ?» s'écria Lucien. « D'après ce que nous a dit Méraud, la cure est impossible, » répondit Bianchon. « Sa tête est le théâtre de phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul pouvoir. »« Il existe cependant des agents, » dit d'Arthez. « Oui, dit Bianchon, il n'est que cataleptique, nous pouvons le rendre imbécile. »« Ne pouvoir offrir au génie du mal une tête en remplacement de celle-là, Moi, je donnerai la mienne, s'écria Michel Chrestien. Et que deviendrait la Fédération européenne? Dit d'Arthez. Ah, c'est vrai, reprit Michel Chrestien. Avant d'être un homme, on appartient à l'humanité. Je venais ici le cœur plein de remerciements pour vous tous, dit Lucien. Vous avez changé mon billon en louis d'or. Des remerciements? Pour qui nous prends-tu? Dit Bianchon. Le plaisir a été pour nous, reprit Fulgence. Eh bien, vous voilà journaliste, lui dit Léon Giraud. Le bruit de votre début est arrivé jusque dans le quartier latin. Pas encore, répondit Lucien. Ah, tant mieux, dit Michel Chrestien. Je vous le disais bien, reprit d'Arthez. Lucien est un de ces cœurs qui connaissent le prix d'une conscience pure. N'est-ce pas un viatique fortifiant que de poser le soir sa tête sur l'oreiller en pouvant se dire « Je n'ai pas jugé les œuvres d'autrui, je n'ai causé d'affliction à personne. Mon esprit, comme un poignard, n'a fouillé l'âme d'aucun innocent. Ma plaisanterie n'a immolé aucun bonheur. Elle n'a même pas troublé la sottise heureuse, elle n'a même pas injustement fatigué le génie. J'ai dédaigné les faciles triomphes de l'épigramme. Enfin, je n'ai jamais menti à mes convictions. Mais, dit Lucien, on peut, je crois, être ainsi tout en travaillant à un journal. Si je n'avais décidément que ce moyen d'exister, il faudrait bien y venir. Ho, 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 dit Fulgence en montant d'un ton à chaque exclamation. Nous capitulons. Il sera journaliste, dit gravement Léon Giraud. Ah, Lucien, si tu voulais l'être avec nous, qui allons publier un journal où jamais ni la vérité ni la justice ne seraient outragées, où nous répondrons les doctrines utiles à l'humanité, peut-être. Vous n'aurez pas un abonné, répliqua machiavéliquement Lucien en interrompant Léon. Ils en auront 500 qui en vaudront 500 000, répondit Michel Chrestien. Et il vous faudra bien des capitaux, reprit Lucien. Non, dit d'Arthez, mais du dévouement. Tu sens comme une vraie boutique de parfumeur, dit Michel Chrestien en flairant par un geste comique la tête de Lucien. On t'a vu dans une voiture supérieurement astiquée, traînée par des chevaux de dandy avec une maîtresse de prince, Coralie. Eh bien, dit Lucien, y a-t-il du mal à cela? Tu dis cela comme s'il y en avait, lui cria Bianchon. J'aurais voulu à Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, une noble femme qui l'aurait soutenu dans la vie. Mais Daniel, est-ce que l'amour n'est pas partout semblable à lui-même? Dit le poète. Ah, dit le républicain, ici je suis aristocrate. Je ne pourrais pas aimer une femme qu'un acteur baisse sur la joue en face du public, une femme tutoyée dans les coulisses qui s'abaisse devant un parterre et lui sourit, qui danse des pas en relevant ses jupes et qui se met en homme pour montrer ce que je veux être seul à voir. Ou, si j'aimais une pareille femme, elle quitterait le théâtre et je la purifierais par mon amour. Et si elle ne pouvait pas quitter le théâtre, je mourrais de chagrin, de jalousie, de mille maux. On ne peut pas arracher son amour de son cœur comme on arrache une dent. Lucien devint sombre et pensif. Quand ils apprendront que je subis Camusot, ils me mépriseront, se disait-il. Tiens, lui dit le sauvage républicain avec une affreuse bonhomie, tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Il prit son chapeau et sortit. Il est dur, Michel Chrestien, dit le poète. Dur et salutaire comme le davier du dentiste, dit Bianchon. Michel voit ton avenir et peut-être en ce moment pleure-t-il sur toi dans la rue. D'Arthez fut doux et consolant. Il essaya de relever Lucien. Au bout d'une heure, le poète quitta le cénacle, maltraité par sa conscience qui lui criait « Tu seras journaliste !» comme la sorcière cria Macbeth. « Tu seras roi !»